Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le vendredi 13 octobre 2023. Pour la première fois depuis des mois, j'ai décidé de traiter l'inflation et de me poser devant mon écran de trading pour profiter de la publication des chiffres du CPI que l'on attendait depuis lundi. Je me disais qu'il suffisait de prendre le marché à contre-pied du mouvement qu'il ferait lors de l'annonce pour essayer de gratter quelques points sur le futur S&P. Alors, je me suis assis, j'ai observé les mouvements du futur S&P lors de l'annonce, comme si ma vie en dépendait. Les chiffres sont sortis, plus ou moins en ligne, et il ne s'est rien passé. Heureusement, Krugman s'est fendu d'une nouvelle déclaration mythique, et ça nous a donné un truc à faire rire. Ce matin, j'ai encore les yeux qui me font mal d'avoir regardé les futurs osciller entre 4391 et 4381 pendant de longues minutes avec des volumes qui donnaient l'impression que tout le monde était resté collé sur une terrasse. Il faut dire que les chiffres publiés hier n'ont pas changé grand-chose dans nos esprits visionnaires d'investisseurs à long terme. Le CPI est sorti à peu près au même niveau où on l'attendait et il ne nous donnait pas forcément envie de changer de scénario. Scénario qui, pour le moment, confirme que la Fed ne fera rien lors du prochain meeting qui se tiendra le 31 octobre et le 1er novembre. Par contre, on est quand même en train de comprendre que les chiffres publiés montrent que la hausse des prix est moins forte, mais que ça monte toujours. Hier, les deux dernières données du CPI et les dernières données du CPI ont démontré que le taux annuel d'inflation n'avait pas bougé depuis le mois dernier. D'aucuns diront même que la lecture des chiffres montre que c'est quand même plus hot que prévu, mais pas assez hot pour faire broncher le marché. L'indice des prix à la consommation de septembre nous a dit que les prix ont augmenté de 0,4% le mois dernier, juste au-dessus des attentes des économistes qui tablaient sur une augmentation de 0,3%. Le CPI de base, qui exclut l'alimentation, l'énergie et tous les trucs dont on a vraiment besoin, est sorti à 0,3%, ce qui était pour une fois complètement dans les attentes. Joie et bonheur. Pour une fois, on a une prévision qui est tombée dans les attentes. Si l'on se base sur les chiffres annuels, les prix de la consommation ont augmenté de 3,7% comme au mois d'août, mais au-dessus des 3,6% attendus par les économistes. Du coup, les analystes en ont conclu que les données sur l'inflation ne feraient pas beaucoup d'indications sur les prochaines décisions de la Fed. On reste plus ou moins convaincu que la Fed ne fera rien lors du prochain meeting, mais la probabilité d'une hausse en décembre augmente progressivement dans la tête des experts. Ces derniers chiffres ont donc un peu refroidi le marché tout de même, puisque les experts pensent que tout n'est pas encore gagné, puisque le scénario idéal que l'on s'est construit depuis quelques semaines, scénario qui se base sur le fait qu'il suffirait de garder les taux élevés pendant longtemps, ne suffirait plus à lui tout seul pour ramener l'inflation sous les 2% comme Powell en rêve toutes les nuits. Nous ne sommes pas vraiment sur le fleuve tranquille économique que certains sont en train de nous vendre. Certains comme Paul Krugman, le chroniqueur économique du New York Times et le prix Nobel d'économie, vient d'ailleurs de nous faire une explication de texte dont il a le secret, puisque dans la foulée de la publication des chiffres du CPI, l'économiste américain a réussi à publier un tweet qui disait « La guerre contre l'inflation est terminée, nous avons gagné et pour pas cher ». Cette danse de la victoire n'est pas passée inaperçue puisqu'il s'est immédiatement fait démonter par la concurrence. On peut parfois se demander comment un prix Nobel est capable de publier des conneries pareilles sur X, ex-Twitter, sans réfléchir 3 minutes avant de le faire. Je ne conteste pas le fait qu'il peut éventuellement peut-être être un visionnaire, bien que j'en doute, mais quand on voit l'augmentation des prix réels d'à peu près tout, on peut se demander s'il n'y a pas un meilleur moyen de communiquer avec Main Street plutôt que de passer pour un connard arrogant. Et si l'on regarde les autres chiffres, on peut aussi noter que l'inflation sur les assurances voitures est de 18,9%. L'inflation sur l'entretien automobile est de 10,2%. L'inflation des transports publics est de 9,1%. Les loyers sont en hausse de 7,4%. Le coût des charges des propriétaires est en hausse de 7,1%. La restauration et la nourriture à l'emporter est en hausse de 6%. Les prix de la viande et de la volaille subissent une inflation de 4,8%. Et encore, on vous parle pas du reste. On peut donc en déduire que si l'inflation globale a baissé par rapport à ses niveaux les plus élevés, de nombreux produits de première nécessité connaissent encore une inflation de plus de 5% et que donc, il faudra retenir qu'il n'y a pas de déflation, mais bien une désinflation. Si le taux d'inflation a baissé, les prix continuent d'augmenter, et pas qu'un peu, si l'on se base sur les prix du jus d'orange par exemple, et je ne parle même pas de l'essence. Du coup, les déclarations de Krugman paraissaient complètement connes et on commence à se demander s'il a conservé toute sa tête ou s'il a sombré dans la drogue et l'alcoolisme. La meilleure réponse à son tweet aura probablement été apportée par Tim Hurtoff, ex-responsable de la communication dans la campagne de Trump en 2020, et il s'est fendu d'un tweet laconique qui disait C'est une nouvelle fantastique pour les Américains qui n'ont pas besoin de se nourrir, un endroit où habiter et qui n'utilisent ni électricité ni pétrole. Ce qui fait bien sûr référence au fait que Krugman s'est basé sur le Core CPI pour justifier son annonce. Core CPI qui exclut globalement tous les trucs qui montent. En conclusion de cette journée soporifique et ennuyeuse, à un point qu'à un certain moment j'ai presque eu envie de me refaire la saison 1 de l'inspecteur Derrick en version originale, on retiendra que l'inflation est sous contrôle, selon l'angle où on se place, mais qu'il n'y a pas encore de quoi faire une danse de la victoire pour fêter ça, surtout que les prix du champagne sont encore montés de 5% le mois dernier. Et si l'on fait le bilan de la séance d'hier, les indices sont terminés en légère baisse. Il faut dire que comme ça montait sans discontinuer depuis 4 jours, il fallait bien qu'à un moment nous revenions à la réalité. Et là, tout d'un coup, à quelques heures du week-end et du retour de la pluie, on a commencé à se dire qu'on allait devoir commencer à se concentrer sur les chiffres du trimestre et qu'il fallait donc passer en mode microéconomie alors qu'avant nous étions en mode macro. Peut-être que finalement la séance du 12 octobre était une séance de transition pour laisser le temps à nos esprits plutôt de switcher entre experts en décision de la Fed et experts en gestion d'entreprise pour expliquer aux CEO de ces mêmes entreprises ce qu'ils auraient pu faire de mieux. C'est toujours bon d'expliquer au monde combien nous sommes supérieurs, nous les gens issus du monde merveilleux de la finance. Bref, hier, le S&P 500 a perdu un peu plus de 0,6%, tout comme le Nasdaq. En Europe, on recule à 0,25-0,3%. Ce matin, en Asie, on est en plongée de 0,4% à Tokyo, 2% à Hong Kong et 0,6% en Chine. Les actions asiatiques baissaient alors que l'on a peur d'avoir des taux élevés pour plus longtemps que prévu, même si nous sommes virtuellement incapables de dire ce que signifie plus longtemps. On connaîtra tout particulièrement la baisse des actions chinoises après des chiffres du CPI en Chine qui sont restés stables en septembre, mais dégueulasses dans l'absolu, tandis que les prix à la production ont diminué à un rythme plus lent. Du coup, on parle de déflation. On en avait bien besoin. Le pétrole est à 83,57, l'or est à 1886 et le Bitcoin est à 26 826. Dans les nouvelles du jour, on notera la publication des chiffres de Delta. Le transporteur aérien a annoncé un bénéfice pour le troisième trimestre supérieur aux attentes et a déclaré que la forte demande de voyages qu'il a constatée depuis des mois s'est poursuivie au cours du trimestre actuel. Le titre perdait 2,3%. Oui, vous avez bien lu, bon chiffre, meilleur que les attentes, forte demande, mais il y avait quand même un truc qui plaisait pas, sûrement parce qu'il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs. Il y a aussi Walgreens Boots qui a publié des chiffres tout pourris en dessous des attentes et qui s'attendent à un trimestre immonde. Pourtant, le titre prenait 7% sur la séance. J'ai comme l'impression que la saison des publications du Q3 va être super longue et super compliquée à interpréter. Ou alors, il va peut-être falloir commencer à prendre des produits illégaux pour compenser. À propos de produits illégaux, il faut aussi retenir également que Monsieur Krugman n'en a pas terminé avec nous, puisqu'en plus de nous expliquer comment fonctionne son inflation à lui, il a trouvé encore le moyen de nous expliquer comment régler le problème du budget américain. Et selon lui, c'est assez simple. Il suffit d'augmenter les impôts ou les taxes, d'augmenter les impôts et les taxes, ou de supprimer les programmes d'aide sociale. Et il est déjà sympa d'avoir dit « ou » et pas « et ». En tous les cas, je ne sais pas ce qu'il cherche en ce moment, mais il va se faire jeter des pierres par les gens qui vont le croiser dans la rue. Et vu le nombre de gens armés aux USA, pas sûr que ça se limite à des cailloux. Mais ça, ça n'est pas tout du côté des économistes, puisque Monsieur Roubini est également venu s'exprimer pour nous prévenir que le marché n'avait pas encore complètement intégré le fait qu'il pourrait y avoir un conflit massif au Moyen-Orient. Oui, en effet, merci Monsieur Roubini. On peut donc passer à autre chose. On notera que la Chine a interdit à ses citoyens d'aller ouvrir des comptes à étrangers. Ça sent la liberté et la joie de vivre à plein nez. Et puis, pour terminer également sur une note joyeuse, il faut également prendre note du fait que la dette du gouvernement US est en train littéralement d'exploser, encore une fois. Elle prend l'ascenseur à toute vitesse. Depuis que les deux clowns ont fait péter le plafond de la dette à Washington en juin, c'est open bar et plus personne n'a de limite. T'as besoin de pognon, fais-toi plaisir. Au rythme actuel, les USA s'endettent de 1000 milliards supplémentaires tous les 45 jours. Actuellement, nous sommes à 33 550 milliards. Je vous laisse donc faire le calcul, sachant que la prochaine fois que Washington se préoccupera de la dette, nous serons en janvier 2025. Toujours au chapitre de la politique US, alors qu'hier nous pensions avoir trouvé un Speaker of the House, en la personne de Steve Scalise, mais il n'a pas réussi à avoir suffisamment de votes pour avoir le job. Le poste est donc toujours vacant, et puis pour résumer la chose, les républicains ne s'entendent pas avec les démocrates ne s'entendent pas entre eux, et les républicains se détestent tous cordialement. Je crois qu'il va falloir une guerre pour que les gars s'unissent derrière la bannière étoilée, reste à espérer que ce soit juste une guerre civile. Pour le reste... Pardon, reste à espérer que ce ne soit pas une guerre civile. Lapsus. Pour le reste, on va se concentrer sur la publication des chiffres des banques qui vont vraiment ouvrir le bal des earnings. Aujourd'hui, nous aurons Citi, JP Morgan, Wells Fargo et BlackRock. Il y aura aussi United Healthcare, mais c'est pas une banque. Pour ce qui est des chiffres du jour, nous aurons le PPI en Suisse, le CPI en France et en Espagne, et puis la production industrielle en Europe, ainsi que les prix américains à l'importation et à l'exportation. Puis, il y aura aussi la confiance du consommateur version universitaire du Michigan. Et puis pour ceux qui n'en auront pas eu assez aujourd'hui, il y aura Madame Lagarde qui parlera, enfin en admettant qu'on l'écoute encore. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,11% et ce soir, c'est le week-end. Il me reste donc à vous le souhaiter excellent. Espérons que la journée qui le précède le soit aussi. Et moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle chronique matinale. À lundi.